Bonsoir à tous, bonsoir Gérard.
Bonsoir André.
C'est Attaque. Eh oui, c'est Attaque 18, le groupe Attaque de la région de Bourges, qui vous parle tous les quatrièmes vendredis du mois sur Radio Résonance 96.9.
Et que dit-on chez vous ?
Qu'un autre monde est possible. Un monde juste, solidaire, durable et démocratique. Parfaitement.
Nous aborderons d'abord quelques points d'actualité avant la chronique de notre ami Louis-Claude.
Puis nous écouterons un entretien avec notre ami Jean-Noël Ferraille à propos du déploiement de la 5G.
Et enfin, nous terminerons avec le livre du mois, le tout accompagné de chansons. Alors André, qu'as-tu retenu dans l'actualité de ce mois ?
Ah bah écoute Gérard, bah évidemment on va encore parler du Covid, hein. On va commencer par là. Un dossier de Thomas Lemayeux dans l'Humanité dimanche du 18 mars remet quelques idées en place sur les Big Pharma, leurs vaccins et leur façon d'agir. Alors on s'extasie sur la rapidité avec laquelle les labos les ont mis au point ces vaccins. Bah, pourtant, au départ, il ne s'était pas beaucoup impliqué jusque-là dans la recherche, hein, dans les vaccins contre les virus surtout, parce qu'il les jugeait peu rentables. Les recherches ont été menées depuis une vingtaine d'années maintenant dans les laboratoires publics, souvent dans des universités. La pandémie arrivant, les labos privés ont eu accès à ces études et en plus ont reçu des tonnes d'argent public. On évalue à 95 milliards d'euros ce qu'ils ont touché, notamment par le biais de précommandes de doses. Bah, ce qui ne les a pas empêchés de s'arroger la propriété complète des brevets, pourtant largement issus de recherches publiques. Bah, c'est que ça rapporte, hein. Rien que Pfizer s'attend à réaliser un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars, avec un bénéfice qui doit se situer entre 25 et 30%. Mais le pompon revient sans doute à AstraZeneca. Je cite l'article. Hein. Au départ, il y a un institut de recherche de la prestigieuse université d'Oxford qui travaille depuis des décennies sur les maladies virales et qui, dès l'explosion de la pandémie du nouveau coronavirus, début 2020, pense détenir la recette d'un sérum efficace. À cette époque, les chercheurs promettent d'en mettre la formule ainsi que toutes les technologies et les savoir-faire à la disposition du monde entier. Mais quelques semaines plus tard, comme il l'a lui-même raconté, Bill Gates, à la tête de la fondation qui porte son nom, les incite à se rapprocher d'une multinationale au motif d'en garantir l'industrialisation. Une petite parenthèse, Bill Gates est un très grand donateur de l'université d'Oxford. Alors, aussitôt dit, aussitôt fait. C'est le groupe anglo-suédois AstraZeneca, un acteur relativement mineur dans la production de vaccins, qui emporte le morceau. Le problème, c'est qu'il s'arroge aussi vite tous les droits de propriété intellectuelle, promettant tout de même de vendre le produit à prix coûtant. En réalité, dans les contrats avec le Brésil, mais aussi avec l'Union européenne, le groupe pharmaceutique ne s'engage pas sur ses tarifs modiques au prix coûtant au-delà de juin 2021. Et dans les faits, aujourd'hui, le prix des doses du vaccin peut être très bien multiplié par 3 ou 4 par rapport à celui qui est pratiqué en Europe, qui est de 2 à 2,50 environ pour chaque dose. En Ouganda, pays beaucoup plus pauvre, hein, 7 euros la dose. En Afrique du Sud, 4,50 euros la dose. Alors finalement, ce sont les chercheurs d'Oxford qui avaient raison. Si on fabriquait maintenant leur vaccin, et les autres d'ailleurs, partout où on peut le faire dans le monde, on serait bien mieux armés pour vaincre l'épidémie. Alors chez nous, ici, du 20 au 30 mars, c'est la semaine des alternatives aux pesticides. Après le rassemblement du samedi 20, l'association de veille environnementale du Cher appelle les citoyens à agir individuellement et collectivement. Individuellement, en faisant vivre une agriculture paysanne locale, qui renonce aux pesticides et cultive en respectant les sols. Aussi en étant consommateur, comme on dit, responsable de nos achats, en choisissant des produits respectueux de l'environnement. Il y a encore 75% des Français qui utilisent des pesticides à la maison. Il n'y a pas que dans les champs qu'on les utilise. Alors qu'on peut s'en passer avec des produits de substitution ou en changeant de pratique. Enfin, protégeons nos insectes butineurs, qui pour certains ont presque disparu de nos champs et de nos jardins. L'association appelle aussi à agir collectivement. Consultons, signons les pétitions contre la promotion des pesticides de synthèse. Interpellons nos parlementaires, opposons-nous à tout type d'épandage, herbicides, insecticides, fongicides. Enfin, exigeons que chaque département ait un registre des cancers. Il s'agit de recenser, de façon anonyme bien sûr pour préserver le secret médical, le lieu d'habitation et la profession des malades. Ces données permettraient de mettre en rapport des cancers avec des professions ou des lieux afin de mieux les détecter et de les éviter. Seulement 22 départements en ont un. Une pétition a été lancée, vous pouvez la trouver sur le site d'AVEC. D'autre part, l'association organise un nouveau rassemblement le samedi 27 mars, mais à 14h30 cette fois, toujours au même endroit, place Simone Veil, l'ancien îlot Victor Hugo, en haut de la rue Moyenne.
Et maintenant, écoutons la chronique de notre ami Louis-Claude.
Le principe de Péter affirme que la progression d'un individu dans une structure hiérarchique est possible jusqu'à ce qu'il atteigne son niveau d'incompétence. L'épreuve gouvernementale ne manque pas. Blanquer se prononce en faveur de l'école de la confiance, confiance dans ses préoccupations pédagogiques et de santé, quand il ignore autant la pédagogie que la médecine. Dominique Vidal demande au CNRS d'étudier les contraintes que les islamo-gauchistes font peser sur la recherche universitaire. Et vous avez sans doute entendu parler des aventures de Barbara Pompili avec les betteraves, les pesticides, les abeilles, les lobbies. Tout ceci serait drôle si ce n'était pas ridicule. Globalement, l'incompétence vient de l'incapacité de ce petit monde à appréhender la réalité. Le dogme basique de l'idéologie néolibérale consiste à vouloir à tout prix que le terrain soit conforme à la carte plutôt que l'inverse. Un peu de mémoire suffira pour se souvenir d'un président de la République qui prévoyait l'inversion de la courbe du chômage ou cet autre conditionnant le relâchement des contraintes de confinement à la baisse sous 5000 des cas hebdomadaires de contagion du virus. Ou encore lorsque le même dirige la politique du pays depuis le piédestal qu'il s'est construit en son palais jupitérien, il est aussi loin des réalités du terrain que lorsqu'il a eu le malheur de montrer son ignorance crasse de la haute montagne. Un skieur de station UP n'est pas un montagnard. L'un des grands principes de l'organisation shadokienne consiste à recommencer 100 fois ce qui a une probabilité d'échec de 99% afin d'en assurer la réussite. Il rejoint ici la pensée de Paul Watzlawick, psychothérapeute et psychanalyste, spécialiste de la communication, mais également vulgarisateur de ses idées. Son livre, Comment réussir à échouer, théorise l'ultra-solution, celle qui consiste à aller encore plus dans la solution qui a déjà échoué. Ainsi, l'exécutif a décidé que diminuer les allocations chômage pousserait les chômeurs à aller travailler et que diminuer les impôts des riches relancerait l'économie. La réalité, hors pandémie, c'est que le chômage est en hausse, les pauvres sont toujours plus nombreux et de plus en plus pauvres, les riches de plus en plus riches. Et c'est ainsi qu'intervient l'ultra-solution. Puisque ça échoue, il faut en rajouter une couche en subventionnant les entreprises sans contrepartie, ni sociale ni écologique, et en réformant les retraites. À l'incompétence, ajoutons l'insincérité du discours. Autant nous apprécions la reconnaissance du crime de l'armée française assassinant Boubengel, autant nous nous interrogeons sur le sens à donner à cette phrase répétée à l'envi de l'Algérie au Burkina Faso via l'Afrique de l'Ouest. Adressée à la jeunesse de ces pays, je cite « Pourquoi parlez-vous de la colonisation sous laquelle vous n'avez pas vécu ?» Moi, à l'école primaire, mes instituteurs m'ont enseigné Bugeaud et Abdelkader, l'AEF et l'AOF. Je suis donc autorisé à me renseigner sur ces périodes, mais pas mes petits-enfants qui sont priés de passer, il n'y a rien à voir dans le rétroviseur. La reconnaissance des crimes commis, c'est pour l'image de la défense des droits en France, La leçon d'histoire, c'est pour que les petits nègres comprennent bien que la colonisation continue et qu'ils n'ont pas voix au chapitre. En bref, on reprend l'antienne sarkozienne et on s'en tient dans l'esprit et on en rajoute dans l'esprit de la France-Afrique. Autre exemple, la violence des bandes de jeunes, souvent révélée par plusieurs morts, soudain révélée par plusieurs morts violentes fin début. Autre exemple, la violence des bandes de jeunes, soudain révélée par plusieurs morts violentes fin février début mars, a créé une vive émotion. La réponse de l'exécutif, remettre une couche de répression, plus de police à la porte des collèges, projet de réforme de l'ordonnance de 1945 dans un sens plus répressif, violence cataloguée comme problème exclusivement sécuritaire et de banlieue. Inutile donc d'écouter ceux qui disent que le problème est beaucoup plus complexe, loin d'être nouveau, lié au manque de moyens, essentiellement humains, associatifs, scolaires, en particulier dans des villes et quartiers de ségrégation. Mais hommes et femmes de droite, vous pouvez vous appuyer sur l'expérience d'autrui, tout en ayant à l'esprit cette pensée de Coluche. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. En effet, nombreux sont les détours susceptibles de fournir des modèles intéressants. La Chine et Hong Kong, le Brésil et la forêt amazonienne, l'Arabie Saoudite et la tronçonneuse, la police des USA et les Noirs, les militaires birmans et la démocratie, Israël qui, comme nous le rapporte Sylvain Sipel, théorise sa pratique du toujours plus au sujet de sa relation avec les Palestiniens. Je cite « Ce qui ne s'obtient pas par la force s'obtient en usant de plus de force ». Dans un autre registre, d'ailleurs, la gauche ne fait pas vraiment mieux, qui prêche unanimement l'unité, l'unité derrière chacun de ses membres leaders, de ses nombreux leaders. On ne compte plus le nombre de fois où cette démarche a échoué, donc on la reconduit, majoritairement pour les régionales et pourquoi pas pour la présidentielle, puisque la division à gauche conduit à l'échec, il suffit de se diviser encore plus. Je résume. Pour un parti de gauche, il est impossible de faire confiance à un autre parti de gauche, sauf si ce parti de gauche accepte de faire confiance au parti de gauche qui n'a pas confiance en ce parti de gauche. C'est compréhensible, non? Non? Ah bon. Mais enfin, peut-être que les choses sont en train de changer, et c'est à suivre. Une autre explication, les responsables de la gauche ont compris que le titre Comment réussir à échouer était de l'humour, mais ils n'ont pas tous compris que le contenu du livre, lui, relevait du second degré. Et là, je me demande si les responsables politiques en question, mais qu'ils soient de gauche ou de droite, c'est pareil, n'auraient pas atteint leur niveau d'incompétence. Et n'oublions pas que l'une des conséquences du principe de Peter, c'est que les degrés les plus élevés des hiérarchies bureaucratiques sont occupés non seulement par des incompétents, mais qu'ils sont inamovibles.
Les gestes sont les mêmes depuis la nuit des temps. Depuis que l'homme sème l'avoine et le froment, la main s'ouvre et la graine s'envole avec le vent. La terre attend sereine et le germe est patient. La vie n'est pas à vendre. Qui donc peut la comprendre, qui sait d'où elle vient? Seul un fou peut prétendre qu'il en est souverain. Elle renaît sous la cendre, à nul elle n'appartient. Têtue, fragile et tendre, elle est dans chaque grain. La vie n'est pas à vendre. Des hommes insatiables, grossiers, avides, avares, sans loi, sans dieu ni diable, autre que le dollar. On dit tout ce qui pousse est verdi et fleuri. Sous le ciel est à nous, malheur à l'insoumis. La vie n'est pas à vendre. À entendre ces gens vivants à l'âme morte, faudrait chaque printemps que la nature apporte, payer pour acheter à d'abjects bandits, le mystère donné, l'étincelle, le cri, la vie n'est pas à vendre, la vie n'est pas à vendre. serait temps que se lève, fraternel, un grand vent. Serait temps qu'enfin crève le pouvoir de l'argent. Que la seule loi qui reste soit celle du plus doux, du faible, du modeste, et qu'elle règne partout. La vie n'est pas à vendre. La vie n'est pas à vendre.
Vous écoutez l'association Attaque 18 dans son émission mensuelle et sur Radio Résonance 96.9. Et voici maintenant un entretien que nous a accordé Jean-Noël Ferraille à propos du déploiement de la 5G qui est en cours d'installation un peu partout.
Eh bien Jean-Noël, bon tu es membre d'Attaque hein, tu fais partie du collectif qui s'est créé récemment je crois, Attention 5G. Alors, c'est quoi ce collectif ?
Eh bien, c'est une initiative récente qui veut mobiliser la population et informer surtout sur les risques qu'il y a à déployer une technologie 5G dans l'ensemble de la France et particulièrement à Bourges et dans le Cher.
Et c'est quoi cette 5G ?
Alors la 5G, ben, c'est le déploiement d'ondes électromagnétiques que l'on connaît déjà avec la 4G, la 3G précédemment. Et sauf que les puissances sont multipliées par 50, les possibilités seront nombreuses, il y aura un intérêt technique. Mais il faut peser le pour et le contre pour savoir si le jeu en vaut la chandelle et en tout cas se poser les questions sur la santé, les risques en matière de santé, sur les problèmes d'environnement que ça va créer et puis des problèmes sociétaux énormes que sous-tend ce type de technique.
Oui, alors ben justement, on va voir pour la santé par exemple, qu'est-ce qui vous inquiète là, là-dessus ?
Alors, il faut savoir deux choses. Bon, je l'ai dit, les ondes 5G, ce sont des ondes électromagnétiques, et on commence à les connaître. Il faut savoir deux choses. Les opérateurs, pour entendre le discours des opérateurs. D'abord, elles ont un effet thermique. La puissance émise, notamment par le smartphone, peut engendrer des perturbations thermiques sur le cerveau.
En gros, ça chauffe, quoi.
Ça chauffe.
C'est l'effet micro-ondes, tout simplement, quoi.
Effet, exactement, c'est le même système.
Donc, autrement dit, quand on pense en téléphone portable, on passe un petit peu sa cervelle au micro-ondes, c'est ça ?
Voilà. Alors, cet effet thermique est admis par la communauté scientifique en général et les opérateurs et les pouvoirs publics. Ce qui est nié par les derniers, c'est-à-dire les opérateurs et nos pouvoirs publics en France, ce sont les effets biologiques, c'est-à-dire les effets sur la cellule, qu'elle soit animale, humaine ou végétale.
Mais même avant la cellule, je crois qu'il y a des gens qui sont électrosensibles.
Alors ça,
c'est assez rare, mais enfin ça arrive quand même.
C'est de plus en plus fréquent. Il y a un taux de croissance des électrosensibles qui est relevé, je ne l'ai pas en tête, mais qui est de plus en plus important. Il y a à Bourges une association des électrosensibles et des personnes qui, en stade ultime, sont obligés de se calfeutrer dans des maisons spécialement conçues, avec des rideaux spécialement adaptés, pour que les ondes ne pénètrent pas dans leur environnement immédiat. Et ces personnes ne peuvent plus sortir, ne peuvent plus se retrouver en centres commerciaux, tellement elles sont agressées, avec des impacts colossaux sur leur quotidien et leur santé en général.
Ça, ce sont sans doute des cas exceptionnels, mais enfin, si ces ondes ont des influences sur eux, peut-être qu'elles peuvent aussi avoir des influences moins impactantes, moins graves sur tout un chacun.
Voilà, ça peut être un eczéma qu'on ne peut éventuellement ne pas attribuer à aux ondes électromagnétiques. Ça peut être de l'acouphène, ça peut être plein de...
Oui, alors non, en plus, ça peut avoir tout tout un tas d'autres causes, donc on peut évidemment mettre en avant ces autres causes. Mais je crois qu'en France, cette électrosensibilité n'est pas reconnue.
C'est ça.
Qu'elle l'est dans d'autres pays.
Voilà, elle n'est pas reconnue comme étant une maladie effectivement répertoriée. Et
une cause de maladie répertoriée. Quoi.
Voilà. Et on considère que la plupart du temps, les électrosensibles, c'est la peur qu'ils ont des ondes qui fait qu'ils deviennent malades. Mais ce n'est pas une cause directe.
Ouais, on a aussi dit ça autrefois de la radioactivité. Hein. C'est pas la radioactivité qui vous rend malade, c'est la peur que vous en avez.
Ouais.
Bon, on nous l'a déjà servi. Mais il y a aussi autre chose, je crois, c'est les ondes peuvent agir alors sur les cellules elles-mêmes.
Voilà, c'est ça. Ce qu'on appelle les effets biologiques. Et là, les études sont de plus en plus nombreuses pour le démontrer. Il y a un effet d'onde par rapport aux nuages d'ondes qui nous traversent en permanence, notamment les ondes radio, la particularité des ondes électromagnétiques dédiées aux appareils téléphoniques, c'est qu'elles sont pulsées. Et donc, pour des raisons techniques je ne vais pas développer, cette pulsation fait qu'il y a un effet mitraillage sur la cellule qui réagit et l'ADN se met en défense très rapidement au bout de quelques minutes d'exposition. Et ça a été démontré notamment par plusieurs savants, notamment un chercheur de Clermont-Ferrand, le professeur Ledoix, qui était financé pour faire des recherches sur les effets des ondes électromagnétiques. Et il avait démontré qu'effectivement, au bout de 10 minutes, à une exposition 10 fois moindre que celle autorisée en France, la cellule végétale se mettait en défense, la tomate notamment. Quand il est revenu pour passer au stade suivant sur la cellule animale, voire la cellule humaine, son laboratoire a été démantelé parce que les financements n'ont pas suivi. Et il faut savoir que ces financements sont majoritairement, qui sont à moitié publics, sont majoritairement décidés par les opérateurs. Bon. C'est ça la recherche en France.
Oui, en gros, c'est l'État qui paye 50%, mais c'est les opérateurs qui décident à 100%. Quoi.
Qui sont majoritaires dans le conseil d'administration, absolument. Ouais. C'est comme ça que l'État abandonne aux sociétés privées son droit, son devoir de regard.
D'accord. Oui, alors peut-être pour en revenir quand même sur un point, les ondes radio, on en a eu, ça fait plus d'un siècle maintenant qu'elles existent, qu'on y est. Tant qu'elles ne sont pas pulsées, apparemment, elles n'ont pas l'air très, très dangereuses. C'est le fait de cette pulsation qui arrive maintenant, en particulier avec les téléphones portables, mais après tout un tas d'autres utilisations, qui, elles, sont dangereuses pour les cellules.
C'est ce que je comprends de l'analyse des études que j'ai pu compulser, mais je ne suis pas scientifique.
D'accord. Il y a aussi des problèmes peut-être sur l'environnement.
Alors, problème pour l'environnement, les opérateurs nous disent quoi ? Nous disent, aujourd'hui, la 4G, elle est saturée à très brève échéance. Donc on peut faire déjà des tas de choses avec la 4G, mais pour eux, ça va être saturé, et donc il faut trouver un autre système. Et ils ont trouvé un autre système, et ils le disent, beaucoup moins gourmand en énergie, et donc moins néfaste pour la planète, c'est la 5G. Ils ont raison sur le plan technique, mais ils ont tort sur le plan du développement de cette 5G. S'ils la développent, c'est pas pour garder les connexions actuelles de la 4G, c'est pour développer un système beaucoup plus impactant qui soit la maison, la domotique complètement connectée, les réseaux des entreprises, l'exemple qui est donné souvent en exergue, c'est la voiture connectée. Et donc, tous ces nouvelles utilisations vont se multiplier par 10, par 100. Et donc, l'impact 5G, en réalité, sera beaucoup plus important que ce qui est dit aujourd'hui.
D'accord, mais ces nouvelles utilisations, ça nous amène peut-être à un modèle de société un peu
peu curieux. Alors, avant, on parlait d'environnement, avant, on parlait des problèmes de société, si je peux me permettre, il va y avoir aussi l'impact de l'obsolescence de les appareils que l'on a, qu'on va devoir jeter pour acheter des nouveaux trucs. Qui consomme, on le connaît en matières premières, dans les terres rares, etc. Et au niveau de transport, ça va créer un buzz terrible au niveau de l'environnement. Voilà. Alors, le choix de société, on y touche presque, parce que la société et l'environnement, on est connectés. Hein. Mais on a un président aujourd'hui qui a, par ordonnance, décidé qu'il n'y avait plus aucun contrôle sur pour le développement de la 5G, aucun contrôle citoyen, aucun contrôle des maires, et il a décidé, par ordonnance sanitaire, ordonnance signée sur le Covid. C'est une sorte de foi absolue dans la technologie, le dieu technologie qui doit
nous apporter le bonheur, nous apporter la croissance.
Voilà, pour lui, c'est surtout la croissance. Hein, voilà. Alors, le risque au niveau sociétal, c'est que ce soit une société de surveillance absolue. Parce qu'il faut savoir que la 5G va développer une nouvelle technique qui sera en faisceau. Bon, je ne vais pas aller dans le détail. Mais il n'y aura plus d'endroit où il n'y aura pas de faisceau disponible pour capter un passage. Dès l'instant où un appareil circule, il sera automatiquement visé par cette connexion. C'est donc une société de surveillance qui va se développer. On le voit déjà aujourd'hui avec nos problématiques sociétales de terrorisme et autres. C'est le prétexte à une société de surveillance. Et là, la 5G va permettre tout ce qu'il faut. Big Brother n'aurait pas rêvé mieux.
Alors oui, pour le moment, d'ailleurs, cette surveillance existe déjà dans la mesure où il y a des entreprises, de grosses boîtes privées, les GAFA, collectent mettent en mémoire tout un tas de renseignements sur nous, sur chacun d'entre nous, pour les utiliser de façon commerciale.
Mais est encore libre de dire non, je ne me connecte pas, moi j'ai pas Facebook, j'ai pas Google, je suis ailleurs, bon,
voilà. Encore que, au bout d'un certain temps, il y a des fois des choses qu'on devait...
Sans doute.
Bon, pendant longtemps, j'ai pas eu de téléphone portable, je suis bien obligé d'en avoir. Mais imaginons la Gestapo avec ça.
Oui, bien sûr, la Gestapo...
Ou son équivalent.
Oui, mais
on n'est jamais à l'abri d'un État totalitaire. Hein.
Oui, ou même une société bien policée qui te dira, de toute façon, c'est pour un bien, et puis combien de personnes te répondent, mais de toute façon, moi, j'ai rien à cacher.
Ouais, ça c'est le... l'argumentaire des États totalitaires, ça.
Voilà, exactement.
Si vous vous soumettez, vous n'aurez pas de problème. Ce qui est vrai, d'ailleurs.
Alors, ce type de société, moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que c'est une société vulnérable. On voit aujourd'hui ce que sont les risques de piratage que l'on a, soit par la pègre, soit par des États. N'importe qui pourra contrôler et démolir tel ou tel réseau. Et là, à mon avis, c'est un danger considérable. Et comment se prémunir de ça? Alors là, je ne suis pas encore moins scientifique que tout à l'heure. Et donc...
C'est comme le vieil antagonisme de l'épée et de la cuirasse, hein, c'est-à-dire qu'on mettra des systèmes de protection, puis les autres, ils trouveront des moyens de les contourner, et ainsi de suite, indéfiniment. Hein.
Oui, avec des dégâts considérables à chaque fois.
Et des ressources considérables utilisées à ça.
Voilà.
Oui, il y a aussi un autre problème, c'est qu'il peut y avoir un problème aussi de sécurité physique, quoi. Imaginons l'arrêt de la production électrique, il y a tout le système qui s'effondre, là.
Voilà, de toute façon, on est complètement dépendant, oui. Ouais.
Bon, alors, maintenant, peut-être qu'il y a des, s'il y a des gens qui voudraient en savoir plus ou qui voudraient rejoindre ce collectif, peut-être qu'on peut leur donner quelques indications.
Oui, alors, sur le site d'Attaque 18, vous tapez Attaque 18 sur votre... sur Google, sur votre serveur.
Ouais, sur votre moteur de recherche favori.
C'est affreux de dire ça. Mais on trouvera les liens, en tout cas, quelques liens utiles pour s'apprivoiser sur la 5G, ces techniques. Je vais en ajouter d'ailleurs, puisque j'en ai mis que 3 ou 4. Et voilà. Et alors, le collectif envisage des actions. On a dû un peu de mal à mobiliser par ces temps de Covid, mais on va mettre commander avec la Poterne des livres qu'on va mettre en vente sans doute à la Biocop un de ces jours. Donc on le fera savoir dans la presse. On va faire circuler une pétition. Il y a une lettre au maire qui a été envoyée pour leur demander un moratoire. Bourges a voté, la municipalité a voté un moratoire pour la 5G. Ça n'a pas d'effet vu l'ordonnance que je citais tout à l'heure. Odieuse ordonnance. Voilà. Donc on essaye de mobiliser, et comme les Amish de mes Amish sont mes Amish, on devrait y arriver.
Eh bien, merci Jean-Noël.
Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois, s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous? La vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, au chauve-savate, au canon à patates, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
Vous écoutez l'émission d'Attaque 18 sur Radio Résonance 96.9. Alors André, qu'as-tu retenu de tes lectures de ce mois-ci?
Eh bien... Une interrogation, qui doit payer la dette Covid? Tel est le titre d'une étude publiée par Attaque France il y a un peu plus d'un mois. Elle a été rédigée par Vincent Drezet et notre ami Dominique Plion, mais bien sûr engage l'ensemble de l'organisation. On peut la lire et la télécharger sur le site d'Attaque France. Les mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid ont augmenté l'endettement de l'État. cette dette Covid s'élève pour 2020 à 234 milliards d'euros et elle continue à augmenter. Le gouvernement a chargé une commission présidée par Jean Arthuis, ancien ministre des Finances de Chirac, de proposer des mesures de remise en ordre des finances publiques et de remboursement de la dette Covid sans augmenter les impôts par une gestion plus rigoureuse des dépenses publiques et des réformes structurelles. Bruno Le Maire, ministre des Finances, enfonce le clou. Je cite « L'État remboursera sa dette d'abord grâce au retour de la croissance, ensuite par une maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, enfin par des réformes structurelles comme celle des retraites qui doit être une priorité absolue. » Fin de citation. La dette Covid sera instrumentalisée pour continuer en l'aggravant la politique d'austérité menée depuis des dizaines d'années. On a vu ce que ça a donné dans les hôpitaux où on a fermé 80 000 lits en 30 ans et où, avec l'épidémie, on a dû improviser en catastrophe dans un système dégradé qui a tenu et tient encore tant bien que mal grâce uniquement au dévouement total de personnel épuisé. Eh bien, il est prévu de continuer, de supprimer des postes et des lits dès que la pandémie aura cessé. D'autres administrations sont sous-financées, comme l'éducation et la justice. Qu'en sera-t-il si la dévastation continue? Quant aux réformes structurelles, traduisez écrasement de la protection sociale, mais aussi privatisation. Pour la SNCF et EDF, c'est en cours, puis ce seront les HLM et les forêts domaniales que l'on commence déjà à vendre. Il y aurait même dans les tiroirs un plan de privatisation des routes nationales, enfin, ou au moins de certaines d'entre elles. Alors, ATTAC, bien sûr, s'oppose à cette démolition et propose un projet alternatif pour la gestion des finances publiques. D'ailleurs, la fiscalité, la dette, les finances publiques, ATTAC s'en préoccupe depuis longtemps. Citons seulement, parmi beaucoup d'autres études, le livre publié il y a exactement 10 ans, intitulé « Le piège de la dette publique ». Et en 2017, le livre « Toujours plus pour les riches, manifeste pour une fiscalité juste ». Ces livres sont toujours disponibles. L'étude dont nous rendons compte maintenant comprend 2 volets. L'une où ATTAC traite des dettes publiques en général, l'autre où ATTAC présente en urgence un plan de remboursement de la dette Covid. On va se concentrer là-dessus car on aura souvent l'occasion de revenir sur les dettes, les finances publiques et la fiscalité. D'abord, quand le gouvernement dit qu'il n'augmentera pas les impôts, c'est faux, car il va prolonger jusqu'en 2032 la contribution pour le remboursement de la dette sociale créée en 1996 et qui devait s'arrêter en 2024. Or, cette contribution est une taxe de 0,5% sur les revenus de tous les particuliers, riches comme pauvres, y compris les pensions de retraite, les indemnités de chômage et les pensions d'invalidité. Cet impôt n'est pas progressif, mais proportionnel. Il est donc injuste car il frappe autant les pauvres que les riches. Or, pour ATTAC, la priorité, évidemment, doit être la justice. Cette contribution au remboursement de la dette Covid, comme elle l'appelle, cette contribution qu'elle propose est progressive. C'est-à-dire que son taux augmente avec la richesse du contribuable. Elle s'appliquerait aux agents économiques, ménages et entreprises les plus aisés. S'agissant des entreprises, il est possible d'instaurer une contribution calculée sur le chiffre d'affaires à partir de 50 millions, ce qui permettrait d'exonérer les PME qui ont déjà beaucoup souffert, mais permettrait de taxer les GAFAM pour leur chiffre d'affaires réalisé en France. Cette contribution s'appliquerait à environ 6 000 entreprises, qui représentent en France environ 60% de la valeur ajoutée totale des entreprises. Pour les particuliers, ce serait une contribution progressive, épargnant les ménages les plus modestes. On peut envisager en plus un complément sous la forme d'une taxe additionnelle aux droits de mutation au-delà d'un certain montant, afin d'imposer la vente et la transmission des patrimoines importants. Plus largement, au-delà de cette contribution spécifique, reste posée la question d'une véritable réforme fiscale et du renforcement de la lutte contre l'évasion et la fraude telle que celle préconisée par ATTAC. Cette réforme nécessaire et urgente viserait à rendre le système fiscal dans son ensemble plus progressif, dans le but tout à la fois de réduire les inégalités, de neutraliser la fraude, ainsi que les effets de la financiarisation de l'économie, et aussi de financer les besoins sociaux, environnementaux, économiques, et aussi de renforcer le consentement à l'impôt, mis à mal par l'injustice fiscale.
Je rappelle le titre du livre « Qui doit payer la dette Covid ?» C'est à lire, par exemple, sur le site d'Attaque France.
Salut mec, ça va? Tu vas bien? On se présente? Mais non, tu nous connais. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé, tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfices, tes madeleines, tout ce qui traîne. Ce que t'as sué de ton front, on te le sucera jusqu'au front. On est là partout, même quand tu joues, pauvre idiot, on est là partout. Le loto, c'est nous. Le bingo, c'est nous. Le tiercé, le quarté, le quinté, c'est encore nous. Le quinté plus. On te reçus, faut que tu craches, faut que tu payes, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel, taxe d'apprentissage, taxe si t'es pas sage, taxe sur tout ce qui bouge, sur tes clopes et sur ton rouge, sur tes cachets d'aspirine, sur ta vodka et sur ton jean. Majoration relevée, vignette et timbres fiscaux, carte grise et assurance auto, droit d'immatriculation, PV, crash, crash, essence, péage, héritage, partage, mariage, concubinage, on est là à tous les étages. Nous sommes le sac. Que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. Je t'offre un pot. Eh oui, un pot. Un pot fiscaux. Un pot locaux. Un pot direct et un pot indirect. Un pot foncier. Un pot rentier. Un pot sur les grandes fortunes. Un pot même si t'as pas de thune. Un pot sécheresse, un pot richesse. Un pot nouveau, un pot rétro. Un pot recto, un pot verso. Un pot sur le revenu. Un pot sur les revenants. Sur le sac, quand crasse et carbalas, qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes, pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent. Et ta déclaration, tu sais ce que ça veut dire IFA? Impôt forfaitaire annuel, c'est moi qui l'ai inventé, cotisation complémentaire de 0,1%, contribution sociale de solidarité. Attends, c'est pas fini. Majoration relevée, charges sociales et plus-value, cotisation pré-retraite, cotisation post-retraite. T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé. Des pitons, des ronds, des actions, des cicaves, ton liquide, tes pourliches, ton salaire, tes bénéfices, tes magots, tes lingots, tes napos, tes badelettes, tout ce qui traîne. Ce que t'as sué de ton front, on te sucera jusqu'au front. Savent qu'en grâce c'est qu'un balasse. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. Nous sommes Ursaft, qu'en grâce c'est qu'un balasse. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. Salut, TVA, bien. Nous sommes Ursaft, qu'en grâce c'est qu'un balasse. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes, pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. Nous comprenons votre douleur, c'est une triste disparition, mais dans votre malheur, n'oubliez pas de régler vos droits de succession.
Et maintenant, voyons quelles sont les actions en cours ou prévues pour les jours et les semaines qui viennent.
Le collectif Urgence Unie pour le climat du Cher, qui réunit de nombreuses associations, dont Attaque 18, bien sûr, appelle à un rassemblement le samedi 27 mars de 10h à 12h, place de la Nation à Bourges, devant l'entrée du marché de la Halle, de la Loublée. Nous appellerons nos concitoyens et concitoyennes à signer une pétition demandant aux députés du Cher d'amender le texte de loi qui est en cours d'examen à l'Assemblée nationale, afin de le rendre compatible avec les objectifs assignés à la Convention citoyenne sur le climat, seul à même de répondre à la gravité et à l'urgence de la situation. D'autre part, un rassemblement pour une vraie loi climat aura lieu également à Vierzon, place Jacques Brel, mais le lendemain, le dimanche 28 mars, à 15h30. D'autre part, nous rappelons que dans le cadre de la semaine des alternatives aux pesticides, l'association de veille environnementale du Cher appelle à un nouveau rassemblement le samedi 27 mars à 14h30, place Simone Veil, l'ancien îlot Victor Hugo, là en haut de la rue Moyenne. Venez avec vos pancartes. Le rassemblement sera suivi d'une distribution de tracts rue Moyenne.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous vous retrouverons le vendredi 23 avril entre 18h10 et 19h sur Radio Résonance 96.9.
La présente émission sera rediffusée demain samedi à partir de 14h.
Vous pouvez aussi la réécouter en balado-diffusion, soit sur le site d'Attaque 18 ou celui de Radio Résonance.
Vous pouvez de même réagir en allant sur notre site attaque18.org. Si vous voulez écrire, c'est Attaque 18, Maison des Associations, 28 rue Gambon, Bourges.
Nous avons écouté au cours de cette émission Michel Buller, La vie n'est pas à vendre, Boris Vian, La complainte du progrès, et les inconnus, les frères Rapp, tous les vampires.
Au revoir à toutes et à tous et restez à l'écoute de Radio Résonance.
Au revoir. Au revoir.